Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, atelier, rencontres avec les artistes, librairie. Vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Bonjour et bienvenue dans ce 10-10 sur l'antenne de Radio FM+. C'est Yann qui est à la technique ce matin et j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Françoise Combaz et Gérard Lopez qui viennent nous parler d'un collectif, le collectif pour le pacte du pouvoir de vivre qui ce vendredi au Gazette Café tient réunion toute l'après-midi à partir de 14h30 et vous allez nous dire, Marie-Françoise et Gérard, un peu de quoi vous allez parler dans ce Gazette, pas un Gazette Café pour une fois, c'est une Gazette Après-midi, je ne sais pas comment
ça s'appelle. Après-midi.
Gazette Après-midi. Le pacte du pouvoir de vivre, c'est un collectif national qui a des antennes locales. C'est qui, c'est quoi, c'est... et ça fait quoi, le pacte du pouvoir de vivre?
Alors, le pacte du pouvoir de vivre, c'est un machin, un truc qui a été inventé il y a 7 ans maintenant, autour d'associations, de syndicats, de mutuelles, pour essayer de faire valoir l'idée que le monde associatif, le monde syndical, avait son mot à dire dans la vie démocratique de ce pays.
C'est les instances, enfin, c'est les outils de démocratie de participation,
et de création collective et de coopération. Et c'est l'idée de faire en sorte que le monde associatif ait sa part dans la vie démocratique de ce pays.
D'accord.
Voilà, à l'origine, il y avait 19 associations. On avançait une soixantaine de propositions. Là, aujourd'hui, il y a 63 associations, dont les plus grandes, hein, des associations comme ATD, donc Marie-Françoise en parlera mieux que moi, comme la CFDT, comme la Mutualité Française.
La Fondation pour la Nature et l'Homme. La
Fondation pour la Nature et l'Homme.
Et voilà. Bien d'autres.
Ouais, à l'origine, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était Laurent Berger et Nicolas Hulot qui avaient inventé ça. Voilà. Et alors, l'intérêt du pacte de pouvoir de vivre, c'est sa durée. C'est-à-dire, à Montpellier, on a été une des premières associations locales, une des premières... des groupes locaux. Voilà. Qui existe donc depuis l'origine du pacte de pouvoir de vivre national.
Donc depuis 2019, à Montpellier, comme un peu partout en France, et donc au niveau national à Paris, ces associations, ces syndicats, ces mutuelles se retrouvent, travaillent, et ont produit un certain nombre de propositions.
Voilà. Et l'objectif de la réunion de vendredi, c'est effectivement à la fois de rendre compte un peu le travail qu'on a fait. On a choisi... quelque chose où on a beaucoup travaillé sur l'hébergement et le logement et des perspectives qu'on veut tracer pour la vie démocratique dans ce pays.
On va y revenir. Marie-Françoise Combaz, vous êtes de l'association ATD Carmont. Alors, bon, pourquoi ATD a rejoint justement le pacte du pouvoir de vivre?
Alors, bonjour.
Bonjour déjà, bien sûr.
Je pense que pour moi, l'intérêt du pacte du pouvoir de vivre, et je crois que c'est ça vraiment qui a intéressé le mouvement, c'est que ça donne une force, ça donne une visibilité beaucoup plus grande que ce qu'on peut avoir.
C'est le collectif.
Le fait d'être en collectif. Le fait également d'être avec des structures, des organisations, qu'elles soient syndicales ou associatives, qui touchent à des domaines qui sont plus vastes finalement que ceux qu'à ATD on touche, même si on sait que ce sont des domaines qui sont importants et dont on valide à la fois l'importance et les démarches.
Être ensemble, ça permet de brasser toute la vie quotidienne, la vie des personnes.
Oui, et puis moi j'ai envie de rappeler les trois axes sur lesquels le pacte national s'est construit, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'aspect social, travailler pour une société plus juste où chacun a les moyens de vivre, et pouvoir de vivre, ça va au-delà évidemment que les moyens financiers. c'est aussi tout le reste. Et tout le reste, ben, ça se représente par exemple par le deuxième axe qui est un environnement sain. C'est pour ça qu'il y a des associations comme la Fondation pour la Nature et l'Homme, Oxfam, etc.
Et au plan local, le CPE APIE.
Voilà. Voilà, partenaire voilà. de la radio. Voilà.
Et le troisième axe qui est tout ce qui est éducation populaire vers la participation citoyenne de chacun.
L'engagement.
On a, en tant qu'habitants, citoyens, besoin d'être avec des moyens de vivre, le côté social, dans un environnement sain et le moyen de s'exprimer et de participer à la vie locale, de s'épanouir, de, voilà, la vie locale, la vie du pays. Et ces trois axes-là, ben, chacune des structures en général a particulièrement travaillé un des axes, a construit une expertise à partir de son expérience, a accumulé des connaissances et peut faire des apports qu'on retrouve dans les propositions. Mais ce qui est très intéressant au niveau du pacte, c'est que c'est une vision globale que tout le monde a validé. Si on participe, ça veut dire qu'on a validé l'ensemble des propositions, même si ce n'est pas notre axe premier.
Alors, au niveau national, c'est évidemment ce regroupement, vous l'avez dit, de 62 structures qui échangent, travaillent et ont fait des propositions à différents moments, qui font d'ailleurs des propositions pour les élections municipales à venir. Au niveau local, les 62 associations ne sont pas forcément présentes. Il y a des associations qui sont peut-être un peu en retrait, tout simplement parce qu'elles ne sont pas très, très actives sur Montpellier, faute peut-être de militants. Mais vous êtes un certain nombre à vous réunir. Vous pouvez traiter globalement de tout. Vous avez fait des choix dans vos engagements.
Oui, en fait, on a fait des choix. Sur la durée, on s'est engagé sur la préparation du 17 octobre.
C'est alors, chose. Le 17 octobre, rappelons ce que c'est.
C'est Marie-Françoise. La journée, ou peut-être Marie-Françoise, si ça veut bien.
Oui, je veux bien. Alors, le 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère, qui existe depuis 1980, ça y est, j'ai oublié. Et c'est vrai que ça a été lancé au départ par ATD Quart-Monde. Donc souvent, ATD est un petit peu porteur du projet. Je trouve très intéressant, et à Montpellier, ça fait plus de 25 ans qu'on célèbre le 17 octobre tous les ans. Et toujours en collectif de structures. J'essaie de ne pas dire association pour inclure les syndicats, hein, collectif d'organisation. Et c'est très intéressant de voir que, en tant que pacte du pouvoir de vivre, il y a l'envie de porter un petit peu cette manifestation, parce que c'est parfois un petit peu épuisant et les ressources au sein d'une structure ne suffisent pas. Ça donne une visibilité beaucoup plus grande, ça donne plus de force, c'est très bien.
Parce qu'il faut aller interpeller les pouvoirs publics, les collectivités.
Alors, l'objectif de la journée, c'est beaucoup de donner la parole aux personnes les plus pauvres, parce que ça, là, on ne les entend pas beaucoup et on est persuadé que, ben justement, leur participation citoyenne est absolument nécessaire.
Les rendre visibles.
Les rendre visibles et puis écouter leurs idées, parce que c'est eux qui savent ce qui pêche le plus dans leur vie et quelles seraient les mesures les plus efficaces.
Voilà.
On arrive là à tout ce qu'on va dire après sur notre deuxième sujet de vendredi.
Si on reste là-dessus, la durée est importante, c'est-à-dire que le travail en commun,
oui, c'est pas un one shot. Ça fait 6-7 ans.
Ça va. Alors jusqu'à présent, jusqu'à il y a 3 ans, grosso modo, les autres associations et la CFDT venaient en soutien de cette initiative. Et là, on essaye de construire ensemble. Voilà. Et donc l'an dernier, par exemple, ça a été une réussite dans la mesure où on a réussi à donner du travail à l'entreprise à but d'emploi. Le BE qui s'appelle Ovalenco, qui est sur les territoires de deux quartiers, un quartier à Montpellier et un quartier sur Grabels.
Alors là, on a basculé sur l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée, qui s'est mis en place il y a quelques temps maintenant, entre la commune de Grabels et la commune de Montpellier, et surtout les Hauts-de-Massane. Et là aussi, donc, c'est un autre des chantiers du pacte sur lequel, localement, vous êtes très engagé.
On a été très engagé et ça permet, ce travail-là, ça permet... Alors, je reviens au 17 octobre. Cette année, on a réussi à servir un repas au plan cabane, où effectivement, dans les faits, en vrai, les gens organisateurs et les gens de la rue ont mangé ensemble. Et c'est l'entreprise à but d'emploi qui a fait le repas. Voilà. Et cette année, on repart sur la préparation de ça, en se disant que le 17 octobre est un samedi. Et on va essayer de faire en sorte, c'est un samedi, donc on n'aura pas les lycéens qui nous ont aidés, peut-être pas les jeunes étudiants de l'IRTS qui ont travaillé avec nous sur ce dossier-là. Et donc on a décidé d'essayer de faire ce qu'avant on disait une semaine pour, de faire plusieurs initiatives sur la semaine pour essayer de continuer ce travail-là. En travaillant ensemble.
Voilà. On aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne parce qu'on essaiera de suivre attentivement un peu ce qui va se passer autour de ce mois d'octobre et de cette journée du refus de la misère. Mais le noyau dur des organisations, pour reprendre le terme de Marie-Françoise Combaze, sur
les gens membres, on peut dire des membres.
Ou les membres du collectif local. Donc, ce que j'entends, c'est que vous êtes un groupe qui travaille, mais que vous n'êtes pas fermé, et au contraire, à des partenariats externes. Vous avez parlé de l'université, vous avez parlé de l'IRTS, parce que quand on fait des actions en collectif, on peut aller voir d'autres personnes pour les associer.
Voilà, oui. On pourrait dire ça, on pourrait se différencier de beaucoup de choses. On n'est pas une think tank, on n'est pas des intellos qui réfléchissent. On parle de ce que...
Il en faut aussi, je trouve.
Oui, mais ce n'est pas notre objectif premier. L'objectif premier, c'est de faire travailler des gens à partir de leur propre... de leur raison d'être, en quelque sorte. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Alors, on pourrait prendre l'exemple de la CFDT, les retraités de la CFDT. Moi, je les appelle les vieux de la CFDT, comme
oui,
moi.
Oui, retraités actifs, si je
voilà.
comprends bien.
On fait un travail sur l'habitat, hein, on essaye de suivre. Et là, on accompagne le travail qui est fait à partir du syndicat des retraités CFDT. Et les associations viennent corroborer ou appuyer le travail qui se fait.
Habitat, on en vient à logement, et je crois que le logement, c'est une des deux thématiques dont vous allez traiter ce vendredi au Gazette Café, Marie-Françoise.
Oui, alors pourquoi on a choisi ce thème? En fait, on l'a choisi depuis plusieurs années, quasiment au tout début de l'existence du groupe local, du pacte, parce que c'est un problème majeur à Montpellier. On sait que... il y a une pression sur le foncier qui est énorme. Il y a des constructions, mais elles ne suffisent pas, en particulier à loger toutes les personnes qui sont les plus modestes, et j'ose même pas parler des plus pauvres. À ATD, on est très... pour mettre en avant la nécessité de mettre les plus pauvres au premier plan. Mais même sur cette question de l'habitat, même les plus modestes ont du mal à se loger, à la fois parce qu'il n'y a pas assez de logements, et parce que de logements vraiment disponibles, et parce que les prix, en particulier dans le privé, sont beaucoup trop élevés pour permettre à des familles modestes, des étudiants, des retraités, hein, les personnes âgées dont on parlait, et c'est en gros pour ça aussi que les vieux, comme tu dis, de la CFDT se sont engagés dans un projet. Tous les plus pauvres ont du mal à se loger à Montpellier. Donc se pose la question du logement, aussi de l'hébergement, parce que quand on est très pauvre et qu'on n'arrive pas à se loger, on se retrouve où? On appelle le 115.
On appelle sociale.
Le 115, SAMU social, et le 115 est complètement saturé. Aujourd'hui, il n'y a plus de place et on est obligé on constate qu'il y a beaucoup de personnes, en particulier des personnes seules. J'oserais parler des migrants, puisque moi, ça fait des années que je suis un peu sur cette thématique-là au niveau national d'ATD Quart Monde, mais ces personnes-là ne trouvent plus de place. Il y a des personnes qui ont été sorties du 115 et mises à la rue parce qu'il fallait donner la préférence à une famille avec enfants. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce thème il y a plusieurs années. On a travaillé au niveau du pacte sur cette question, qu'est-ce que c'est habiter? Et c'est là qu'on est arrivé à faire le lien entre les trois thématiques du pacte. Habiter, c'est habiter un logement.
Dans un environnement?
Dans un environnement qui est à la fois sain et ouvert, qui permet d'exercer sa vie citoyenne, ses relations sociales. Donc c'est à la fois un logement adapté à la fois aux finances et puis à la structure familiale. Et c'est dans un quartier, dans une ville, dans un village, puisque au niveau de la métropole, quand même, il faut, voilà, donc faut pas ça qu'on touche, le regarde comme Montpellier.
Voilà, ça touche l'urbanisme, ça touche les ça services touche au public, tout. Ça touche absolument tout tous les fait. Domaines de la vie du quotidien. Vous le dites, et vous avez raison d'insister, c'est Montpellier, la commune centre, mais c'est aussi les 31 communes, les 30, communes, les 30 autres communes de la métropole, et sans doute au-delà.
Et sans doute au-delà, oui. Mais... voilà, donc au niveau du pacte, on a eu cette réflexion-là et on a eu un gros travail également pour comment dire, créer du lien. On s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas toutes les ressources au sein des membres locaux du pacte. Alors, il y avait la Fondation pour le logement, ancienne Fondation Abbé Pierre, qui était avec nous, qui est toujours avec nous. Mais ce n'est pas suffisant. Et parmi les... petit diagnostic qu'on a pu faire, puisque chacune des structures est aussi face à ces problèmes-là, dans, j'allais dire hors pacte, mais de manière individuelle, dans son activité quotidienne, on s'est rendu compte que le manque de connaissances, de liens, de connaissances des possibilités et de connaissances des autres structures qui pouvaient intervenir était crucial. On n'arrêtait pas de se passer des coups de fil, de s'envoyer des mails et tout. Et donc, on a eu toute une période, pendant un an, on a organisé toute une série de rencontres où on s'est retrouvés à 30, je crois qu'au maximum, on a eu 32 structures qui étaient autour de la table pour dire ça vaut le coup de se connaître, de faire un diagnostic commun et de voir quels sont les projets en cours et sur lesquels on peut éventuellement s'aider.
Et ce qu'on va, très prosaïquement, vous avez eu des résultats, si je puis me permettre d'être un peu, pas d'évaluation, mais un peu de bilan.
Alors, au-delà de cette connaissance, après on a arrêté les grandes rencontres, mais on continue à être en lien souvent. Et surtout, sur un problème très particulier qui était les familles qui sont remises à la rue, on a obtenu des rendez-vous avec le département, le conseil départemental, qui a de lui-même invité la préfecture, ce qui veut dire qu'on s'est retrouvé grande réunion à plusieurs associations et organisations, dont certaines qui ne font pas partie du pacte. Puisque c'était le principe initial sur cette question, pour travailler ensemble cette question des familles qui sont remises à la rue lorsque le dernier enfant a 3 ans.
Alors, vendredi, vous faites cette réunion au Gazette Café à partir de 14h30, je le rappelle. Vous avez choisi la thématique logement, mais vous voulez parler de quoi et interpeller qui, au fond, à l'occasion de cette réunion? On est à 8 semaines des élections municipales. C'est un peu les candidats que vous interpellez?
Alors, de façon très claire, je crois que notre objectif, et d'ailleurs, on a fait un papier pour cela. Le National en a fait un avec plein de propositions. Et on en a fait un beaucoup plus recentré donc sur Montpellier, sur ces deux thématiques dont on parle aujourd'hui. L'objectif est de voir des candidats et de leur dire, attendez, c'est ça qui est important à nos yeux. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà nos idées. Qu'est-ce que vous allez faire? Avec un droit de suite. C'est pas parce qu'après il y aura des élus, il y a des candidats, puis après il y a des élus, et les élus, eh bien, il faudra aller les voir pour leur dire, attendez,
vous avez sur ça, vous aviez parlé de ça, maintenant qu'est-ce que vous voulez concrètement?
Exactement.
Alors, dans les relations entre les pouvoirs politiques et le monde associatif, le logement est un très bon exemple de responsabilité partagée, c'est-à-dire que le 115, on parle du 115, là c'est l'État. Voilà.
Le 115, c'est encore une fois le SAMU social, c'est la plateforme qui recense
l'État qui est responsable. Le département, lui, il est responsable des enfants. Les enfants, il faut les loger. Une maman qui a un enfant de moins de 3 ans, il faut le mettre à l'abri. Dès qu'il a plus de 3 ans, c'est plus mon problème. Voilà. Alors, cette question-là, on l'a posée très concrètement au conseil départemental et à la DRETS.
La DRETS, c'est l'ancienne direction du travail.
Du travail, mais
et des solidarités.
Et qui maintenant a les solidarités. Et même, c'est même appelé PP derrière, protection de la population. Voilà, il n'y a pas très longtemps, ça s'est appelé comme ça. Donc là-dessus, on a obtenu des résultats concrets. Okay. C'est-à-dire que pendant la réunion, on nous a dit on va mettre des coordonnateurs, on va mettre des choses comme ça. Et puis, le conseil départemental se substituera à l'État jusqu'au mois de juin, voilà, etc.
Il y a eu des engagements.
Ça a été
fait. Donc le droit de suite a fonctionné
dans, tout, dans à fait. Ces... Tout à fait.
Oui, on a eu une réunion un an après avec la même équipe. Et l'équipe, c'était quand même tous les directeurs des services concernés.
Ouais. Voilà. Et après, peut-être là, il y a des subtilités. C'est-à-dire que nous, on a travaillé avec le conseil départemental. Et quand le conseil départemental se trouve embêté, il dit « Ouais, mais il y a des structures qui existent. Si vous continuez à nous titiller comme ça, on va s'en tenir aux structures qui existent.
Hein, » Et c'est... Oui, donc on est dans un jeu qui est forcément compliqué, qui est d'autant plus compliqué que les finances des uns et des autres, État, collectivités,
absolument.
Sont contraintes. Et donc, à un moment donné, il y a des choix qui forcément ne peuvent pas vous satisfaire. Je vous propose quelques instants de musique pour reposer nos oreilles, parce qu'on aborde des sujets là très très sérieux. Et on se retrouve pour parler de la deuxième thématique que vous avez choisi de traiter ce vendredi. C'est le 10-10 de ce jour avec nos invités qui sont les représentants du collectif local du Pacte du Pouvoir de Vivre. Pacte qui tiendra ce vendredi au Gazette Café à 14h30 une réunion pour interpeller à la fois, enfin disons pour dialoguer entre les gens qui seront présents et voir quelles sont les questions à poser dans quelques semaines, enfin d'ici à quelques semaines aux futurs élus, aux candidats aux municipales, et puis après voir peut-être comment les suivre. On parlait tout à l'heure de droit de suite, comment voir comment ces élus, ces nouveaux élus ou ces élus renouvelés feront, quelles seront leurs politiques en matière de logement, on vient d'en parler, et puis aussi de participation citoyenne qui est le deuxième thème que vous avez choisi d'aborder dans cette journée après l'avoir travaillé avec les organisations, comme dit Marie-Françoise, qui constituent le pacte local. Gérard.
Alors, c'est le gros du problème, c'est-à-dire que ce qu'on a envie de travailler, c'est ce qu'on a construit notre raisonnement sur ce que peuvent les communes et les intercommunalités. C'est-à-dire que
vous interpellez les responsabilités, les compétences locales, de la commune et de l'intercommunalité.
Voilà. Comment on optimise, comment on peut augmenter la participation des
habitants,
des habitants dans la vie sociale. Par exemple, alors, puisqu'on a beaucoup parlé du logement.
Dans la vie sociale, ça, c'est leur affaire, mais peut-être dans la vie des politiques publiques locales.
Locales, c'est ça. Si on tire le fil du logement, le logement, c'est là où on habite, mais c'est aussi l'environnement du logement. Alors, avoir des bancs, avoir du respect pour les personnes âgées, avoir du comment on fait pour que les enfants puissent apporter leur... On dit une ville à hauteur d'enfant. Oui, mais comment? Voilà. Et sur ces choses-là, les membres du pacte de pouvoir de vivre qui font de l'éducation populaire ont des propositions très concrètes à amener. Hein, voilà. Donc c'est ce travail-là qu'on va essayer de faire ce vendredi.
Est-ce que c'est d'une certaine manière demander des engagements aux futurs élus?
Alors, on n'est pas dans on n'est pas parti comme on l'avait fait aux précédentes élections, à poser des questions. Hein. On arrive avec des propositions très concrètes. Alors, certaines très élaborées, d'autres naissantes. Je pense dans la préparation de notre travail, on a parlé de budget genré. On n'a pas gardé cette idée-là, mais je ne doute pas que cette idée-là, dans la discussion, va venir vendredi. Hein. Il y a des villes où, pour lutter contre l'inégalité homme-femme dans la ville, on a mis en place des budgets genrés. Voilà le genre de proposition qu'on va faire. Alors après, par rapport aux relations avec la politique, alors la CFDT, puisque j'en viens, est relativement sereine sur cette question-là. Parce que l'indépendance par rapport aux politiques s'est posée de manière très concrète à la Libération.
Là, on fait un point d'histoire.
Un point d'histoire sur le mouvement ouvrier. Sur le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, parce que le mouvement ouvrier s'est défini par l'indépendance. Alors, il y avait une fausse indépendance. Du côté de la CGT, les gens étaient à la direction du Parti communiste.
Mais ça, c'est fini, là.
Mais ça, c'est fini. Après Thibault, ça a été terminé. Voilà. Par contre, l'autre tendance du mouvement ouvrier, qui était la tendance chrétienne, s'est trouvée confrontée à la Libération, après qu'on lui ait reconnu le fait qu'elle avait bien résisté, s'est trouvée confrontée avec la moitié de son Conseil national élu MRP.
Gérard, là, on est parti sur une émission sur le syndicalisme et c'est passionnant, mais ce n'est pas forcément le...
Oui, mais c'est... Mais si,
mais
je
faut le rappeler.
J'y reviens. Je le rappelle pour dire qu'on est tranquille sur l'indépendance à l'égard du politique.
Alors justement, cette indépendance, Marie-Françoise, là aussi, les associations comme ATD, vous êtes indépendant des pouvoirs politiques.
On est complètement indépendant des pouvoirs politiques. Alors, il y a plein de raisons à cela. D'abord, la première, c'est que quand on réfléchit, c'est bien de se sentir libre, et pas d'être affilié à une orientation quelle qu'elle soit. Qu'au sein du mouvement, il doit y avoir des gens de partis différents, avec des sensibilités diverses. Alors, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Et surtout que notre action, que ce soit à TD ou que ce soit en tant que pacte civique, elle est fondamentalement politique. Mais
au sens noble du terme,
et avec un objectif qui est clair, qui est d'avoir un impact sur les politiques publiques. Si on veut avoir un impact, il faut qu'on puisse dialoguer avec tout le monde. Vous êtes dans une ville où il y a quelqu'un de gauche, quelqu'un de droite, quelqu'un d'extrême gauche ou droite, quelqu'un d'écolo, vous devez pouvoir discuter avec tous. On n'est pas dans une démarche de confrontation, on est dans une démarche
De participation,
de construction, de...
De co-construction, peut-être, oui, même
faut
dans
voir,
l'absolu, ça serait bien.
Oui, faut faire attention, parce que ce n'est pas de la compromission.
Non, non.
C'est du compromis, parfois. En même temps, on n'a pas les pouvoirs, quand on est là, en fait, pour donner des idées et pour défendre nos idées et faire en sorte que ces idées entrent dans les politiques publiques. Quelle que soit la couleur de la mairie, par exemple, puisqu'on est dans le cadre des élections municipales. Donc cette indépendance, elle est hyper importante, mais elle est hyper forte aussi. Hein? C'est ce qui nous donne une force de parole, après une force de réflexion.
Et vous revenez au logement ?
Non, je voulais revenir à la participation citoyenne.
Parce que
comment on le construit, ça ?
Et comment on fait mieux que ce qu'on fait ? Parce qu'il se fait plein de choses, évidemment.
Voilà. On est persuadé, et là, c'est vrai à TD, mais je sais que c'est vrai pour les autres structures du pacte, parce que c'est fondamental pour nous, c'est que la connaissance de ce qui ne va pas, de ce qui pourrait aller mieux, de ce qui est essentiel dans ce qui pourrait aller mieux, hein, parce qu'on peut rêver, mais il y a des choses qui sont fondamentales.
Et c'est ce qu'on appelle l'expertise citoyenne ?
C'est de l'expertise citoyenne. Et l'expertise citoyenne, ben, il faut la demander aux citoyens. Et moi, je rajouterais une chose, c'est que ce qu'on dit à ATD, il y a une plaque à l'entrée du Conseil économique et social et environnemental à Paris qui dit ça avec des mots très très bien, que je ne pourrais pas leur raconter de mémoire, mais en gros, si on prend une décision qui est bonne pour les plus pauvres, elle sera bonne pour tous. Si elle respecte le plus petit, le plus pauvre, le plus exclu, elle respectera tout le monde.
Et est-ce que ça vaut aussi, par exemple, pour tous les aménagements ? L'accessibilité, c'est vraiment un des thèmes qui est crucial dans une ville, dans une commune, où que ce soit d'ailleurs. Ce qui vaut pour les plus éloignés ou ceux qui ont des difficultés d'accessibilité, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit les personnes âgées ou les mères avec leurs enfants, ça vaut pour tout le monde. Quand on fait au bénéfice du, entre guillemets, du plus éloigné ou du plus, je sais pas comment dire, du plus fragile, ça vaut pour tout le monde.
On en est convaincu. Voilà. On en est convaincu. Et c'est pour cela que c'est très important de mettre en place une participation citoyenne, que ce soit sur le logement, bien sûr, l'aménagement des quartiers, quels sont les services indispensables, par exemple. Qu'est-ce que c'est qui, dans le budget d'une personne très modeste, bloque le plus et sur lequel, peut-être, ça vaudrait le coup de réfléchir en priorité.
Voilà. Les précarités diverses.
Exactement, mais sur l'éducation. En ce moment, à TD, on a un gros travail, vous en avez peut-être entendu parler, sur l'éducation et la place des plus pauvres dans l'école et de quelle manière ils ne profitent vraiment pas suffisamment de l'éducation, du temps qu'ils passent à l'école. Donc, sur toutes ces questions-là, ça vaut le coup d'écouter les gens qui sont directement concernés.
Et alors, comment ça pourrait se... Qu'est-ce que vous allez, j'allais dire, promouvoir, si je puis dire, ce vendredi ?
Là non plus, ne part pas de rien. C'est-à-dire qu'à l'issue des dernières élections municipales, sur la ville de Montpellier, deux de nos associations, le CPIE-APIE, qui fait de l'éducation à l'environnement...
Avec qui on est partenaire.
Et avec qui on est...
La radio
est partenaire. Et les CMEA...
Centre d'éducation aux méthodes d'éducation active, vieil organisme d'éducation populaire.
Voilà, ces deux organisations ont contribué à la formation des comités de quartier.
Des conseils de quartier.
Des conseils de quartier, merci de la précision. Voilà, des conseils de quartier. Et donc, on ne part pas de rien. Et c'est ce genre de proposition qu'on va aussi faire, en disant, on a dans nos membres des gens qui peuvent intervenir. Alors je dis, on a dans nos membres des gens qui peuvent intervenir parce que le pacte de pouvoir de vivre n'a pas de personnalité morale.
C'est une association de faits.
C'est de faits, voilà.
C'est
le travail qu'on fait en commun qui est porteur de capacité d'action et d'intelligence collective d'une certaine manière. Voilà.
Il est 43, on a encore quelques secondes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Vous voulez parler aux gens de Montpellier, mais vous voulez parler aussi aux gens des 31 communes, des 30 autres
c'est
communes ?
C'est ça, c'est ça. Et peut-être redire qu'à cette réunion vient quelqu'un du National, qui est la présidente de la FAGE, c'est un syndicat étudiant majoritaire, et pour le régional, vient une représentante du Secours catholique.
Voilà, donc si je comprends bien le programme en trois mots, il y aura un moment où on parlera du pacte à son niveau local, régional, national, et puis ensuite on abordera les deux thématiques, et enfin vous interpellerez ou vous poserez des questions.
Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, sur les deux thématiques, l'idée c'est de présenter un petit peu la thématique,
et
pas des solutions, et de donner la parole aux structures qui seront là pour construire des solutions ensemble. On a évidemment les nôtres.
On arrive au terme de ce 10-10, toujours trop court. Rendez-vous vendredi à 14h30 au Gazette Café. Si vous avez envie de parler de logement et aussi de participation, c'est le rendez-vous que vous propose le collectif local du Pacte du Pouvoir de Vivre. On va mettre plein de coordonnées sur le podcast qui suivra cette émission. Et donc, on vous invite à les retrouver sur le site de Radio FM+. C'était Yann à la technique. Merci et bonne journée à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Radio FM+.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.